Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Elle est devenue la première championne de tennis noire dans l'Amérique de la ségrégation raciale dans les années 50. Althea Gibson a même remporté 11 titres du Grand Chelem, une carrière hors du commun mais longtemps restée invisible. Il aura fallu attendre 2019, 16 ans après sa mort, pour que l'US Open dévoile une statue en son honneur. Pourtant, c'est elle qui a ouvert la voie à d'autres grands champions noirs de la discipline, les sœurs Williams évidemment, mais aussi avant elle, Arthur Ashe. Aujourd'hui, un roman graphique retrace le destin exceptionnel d'Althea Gibson. Il s'intitule White Only et ses auteurs sont avec nous sur le Pont des Arts. Julien Frey et Sylvain Dorange, bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
C'est vous, Julien Frey, qui avez écrit le scénario de White Only. Sylvain Dorange, vous en avez réalisé les dessins, la mise en couleur. Comment vous êtes-vous intéressés l'un et l'autre à cette destinée d'Althea Gibson ?
Moi, c'est le hasard. Je faisais des recherches sur un autre livre, pour un autre livre, et puis je suis tombé sur un petit article qui parlait d'Althea Gibson. Et aimant le tennis, je me suis demandé comment il était possible que je sois passé à côté d'elle. Donc j'ai continué mes recherches et je me suis aperçu que tout le monde était passé à côté d'elle.
Et qu'il y avait une grande faille dans cette partie-là de l'histoire du tennis. Sylvain Dorange, vous aussi, amateur de tennis, mais ignorant de son existence.
Complètement, et du coup c'est Julien qui m'a contacté et qui m'a parlé d'Althea. Et du coup, quand j'ai lu, alors je voulais plus faire de biopic en plus à ce moment-là, et il m'a convaincu parce que c'était un super scénario, belle écriture.
Et puis, il vous a fait rechuter.
Ouais, j'ai rechuté dans le biopic.
Althea Gibson, qui était donc une pionnière de sa discipline. Et vous savez que dans cette émission, on les aime, on en parle, hein, pas seulement autour du 8 mars. Bonjour Marjorie Bertin.
Bonjour Nathalie.
On découvrira avec vous tout à l'heure une pionnière de la littérature sud-américaine, Gabriela Mistral.
Oui, c'était la première femme prix Nobel d'Amérique du Sud et premier prix Nobel d'Amérique du Sud, premier prix Nobel de poésie aussi, et totalement oubliée, occultée, effacée pendant des dizaines d'années.
Et puis dans cette émission également un parfum d'années 70 avec l'expo Disco. Laura Dulieu, c'est vous qui êtes allée voir cette expo à la Philharmonie, vous nous emmenez tout à l'heure.
Bah oui, c'est lundi, je sens que vous en avez besoin, on va aller se dandiner un petit peu aux origines du disco.
Absolument, à tout à l'heure.
RFI, sur le pont des arts.
I would have never thought that coming from the streets of New York, playing paddle tennis, that I would be one who would have the opportunity to shake the hand of Queen Elizabeth. To me, that is a great honor.
Et la voix que l'on vient d'entendre est celle d'Althea Gibson, précieuse archive qui date de 1957. Elle vient de remporter le tournoi de tennis de Wimbledon et se voit remettre le trophée des mains d'Elizabeth II. Jamais, dit-elle, je n'aurais pensé que moi, une enfant des rues de New York qui jouait du paddle tennis, j'aurais eu la chance un jour de serrer la main de la reine Elizabeth. C'est un très grand honneur pour moi. C'est vrai, Julien Frey, qu'à la naissance, Althea Gibson ne cochait aucune des cases pour devenir une championne de tennis aux États-Unis.
Aucune, déjà parce que sa famille était pauvre et puis noire. Et dans la ségrégation, dans l'Amérique ségrégationniste, les tournois des blancs étaient interdits aux noirs. Donc quand Althea dit à ses parents qu'elle aimerait faire du tennis, ils lui disent juste « mais ma pauvre, c'est pas possible ».
Oui, t'es complètement irréaliste, c'est un sport de blanc, c'est un sport réservé aux riches. Sa famille, c'est une famille de métayers de Caroline du Sud. Mm-hmm. Ses parents, quand elle naît, travaillent dans une plantation de coton jusqu'à la Grande Dépression où ils bougent vers New York, un appartement minuscule de Harlem. Ah, c'est là que commence l'histoire de White Only. Vous racontez son enfance et ses difficultés notamment à s'intéresser à ce qu'on lui offre, c'est-à-dire l'école, elle ne se sent pas à l'aise là-dedans, elle sait que son destin, que sa vie est ailleurs.
Ça fait partie de ces gamins qui n'aiment pas l'école et qui ont besoin d'autre chose pour se réaliser. Donc elle n'y va pas, elle a un père qui est un personnage central dans sa vie, qui est assez complexe, qui est violent. Donc elle préfère être dans la rue que rester chez elle. Mais oui, elle coche... Vous avez raison, elle coche aucune case. Elle avait aucune chance de faire tout ce qu'elle a réussi à faire.
On voit effectivement ce père, sa violence lorsqu'il apprend qu'elle sèche les cours pour faire du sport. Il l'entraîne même un soir dans les quartiers où ça bagarre, hein, à la nuit tombée, pour lui dire bah voilà comment tu vas finir si tu ne vas pas à l'école, si tu t'obstines à ne pas aller à l'école.
Oui, disons qu'elle a un oncle qui lui va très mal. Et le père voudrait pas que Althea prenne le même chemin que l'oncle. Et il aimerait qu'elle sorte de Harlem en même temps. Il voit pas comment elle pourrait s'en sortir autrement que par l'école. Et elle voit les choses autrement.
Elle voit les choses autrement. Elle touche en fait à tous les sports. Elle va réussir brillamment dans le tennis, mais elle touche à tous les sports. Elle a de l'énergie à revendre.
Oui, ben en fait, à faire du golf, tout ça, mais avant même, déjà, elle était même plus branchée par le basket, par tous les sports de rue, quoi. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait la police de proximité qui gérait le tennis dans la Street 113, je crois, je ne sais plus exactement laquelle. Mais en tout cas, il posait des filets.
143e rue, si je me souviens bien. Ouais,
c'est ça. J'ai aucune mémoire, moi, sur le truc. C'était trop vieux. Et, du coup, elle
jouait... Donc ça, c'est authentique,
jouait...
le fait, parce que j'allais y venir, sûr, le fait qu'elle apprenne à jouer au paddle tennis. D'ailleurs, ouais, c'est quoi le paddle tennis par rapport au tennis
C'est pas le même paddle qu'aujourd'hui. Ce sont d'autres règles que je ne connais pas, à dire vrai.
C'est du tennis,
c'est
mais de rue.
C'est la taille du terrain.
C'est du tennis de rue, comme on fait tous.
Ouais,
c'est un peu ce qu'on fait quand on est gamin et qu'on joue avec ce qu'on peut dans la rue. Quoi.
Et donc, elle apprend authentiquement à jouer à ce paddle tennis avec la police de proximité.
Voilà, c'est ça.
Qui est là pour essayer de maintenir la paix dans ce quartier.
C'est ce qu'elle dit dans l'extrait que vous avez fait écouter, c'est qu'elle parle des enfants de rue et du paddle, et elle dit plus ou moins qu'elle est contente de retrouver ses gamins après en avoir été un.
Elle commence donc comme ça dans la rue. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont jouer un rôle important pour elle, pour qu'elle arrive à se hisser à ce niveau de la compétition et à cette carrière exceptionnelle. Le premier, c'est son entraîneur, Fred Johnson, c'est ça ?
Oui. C'est vrai qu'avec Sylvain, on en a pas mal parlé du personnage d'Althea. On se disait qu'elle avait réussi par ténacité, mais aussi parce qu'elle a été aidée. Et je pense qu'elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans l'aide de Fred Johnson, sans l'aide de ses successifs mécènes, aussi bien dans la communauté noire que dans la communauté
blanche. Ouais.
Parce qu'il y a les joueuses de tennis qui l'ont vraiment accompagnée et aidée et permis d'entrer dans l'univers des Blancs. C'était des joueuses blanches.
Alors ça sera un petit peu plus tard, mais pour revenir à ses débuts, ce docteur Huber Eaton, ouais, qui est un protecteur, un mécène, vous l'avez dit, lui, évidemment, il repère son talent, mais il a aussi un objectif, hein, c'est d'intégrer les Noirs dans les tournois des Blancs, alors que jusqu'ici, vous nous l'avez dit, les tournois sont séparés. Il y a aussi un objectif, en quelque sorte, sportif et politique.
De ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, à ce moment-là, les joueurs noirs voudraient jouer contre... être acceptés dans les tournois de Blancs. Et en fait, avant d'être acceptés, ils se disent est-ce qu'on a un joueur au niveau pour les affronter ? Et quand ils voient Althea, et je pense que c'est aussi pour ça, parce que c'est une personne hors norme qui est très très forte, et ils sentent le potentiel, et ils se disent... on va essayer, on va se battre pour avoir cette égalité et en même temps, on va pousser Althea pour qu'elle leur foute une belle rousse à ce moment-là. Quoi.
Et c'est évidemment très invraisemblable à cette époque-là. Hein. On le rappelait, l'Amérique des années 50, on le voit d'ailleurs dans le roman graphique. Elle va au cinéma, on lui demande, parce qu'elle est noire, d'aller s'asseoir au fond, même si la salle est vide et qu'il n'y a personne dedans. White only, réservé aux Blancs, c'est une réalité pour elle et pour ses proches à ce moment-là.
Ouais, c'est une réalité qui n'est pas seulement celle des États du Sud, des États ségrégés. C'est aussi dans toute l'Amérique en fait, c'est-à-dire que même à New York, les Noirs ne peuvent pas jouer contre les Blancs.
Mmh. White Only, donc ce roman graphique, Sylvain Dorange, roman couleur terre battue, j'allais dire. C'est vous qui l'avez donc dessiné, mis en couleur. Vous avez travaillé, on a l'impression, toutes les nuances de rouille et d'orange des cours de tennis.
Ouais, bah, c'est un peu le. À chaque fois que je commence un nouvel album, je me dis les couleurs, l'ambiance que ça va rendre. Et c'est vrai que là, il y avait. C'est pas que la terre battue, c'est Harlem aussi. On démarre avec Harlem, on démarre avec la rouille, on démarre avec la terre. Toute l'histoire derrière, et je trouvais que le orange de terre, c'était pas mal pour lancer la couleur du projet. Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Soothe you, tell the truth now. Do I move you? Are you loose now? The answer better be yes. It pleases me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? Are you hip to what I'm saying? If you are, pleases me. When I touch you, do you quiver from your head down to your liver? La voix et le piano de Nina Simone, extrait d'un album de 1967, Nina Simone Sings the Blues. La vie d'une championne de tennis noire américaine, la première même, Althea Gibson, au cœur de notre émission aujourd'hui avec l'apparition de White Only aux éditions Vent d'Ouest, un roman graphique que vous co-signez, Sylvain Dorange et Julien Frey. Vous nous l'avez dit, vous avez rencontré Althea Gibson par hasard. Et vous, comment vous vous êtes rencontrés pour arriver à écrire White Only?
Bah moi, j'avais rencontré Sylvain d'abord par le biais de son travail, puisque j'avais lu son album sur Gisèle Halimi. Et du coup, je l'ai contacté et je lui ai proposé, sans savoir déjà s'il allait avoir accroché sur le... C'est quand même assez spécifique, quoi, le tennis, Althea Gibson. Je ne savais pas si ça allait lui parler. Et puis, manifestement, ça lui a parlé.
Qu'est-ce qui a fait que ça vous a parlé, Sylvain Dorange,
cette histoire? Pas forcément le tennis, mais ouais, alors tous ces problèmes d'injustice, moi, c'est un peu tous mes sujets de bouquin, donc ça... Et là, en plus, tout ce qui est ségrégation, tout ça, c'est des thèmes qui me... J'avoue, j'ai du mal encore à les comprendre, mais, ouais.
Mais ça correspondait,
un truc qui me dépasse.
Ça correspondait à ce que vous aviez envie de raconter,
ben,
en tout cas?
Oui, alors complètement, au niveau de l'histoire. Et aussi, par rapport au scénario que j'ai reçu, je trouvais que c'était vachement bien écrit, que c'était... Je sais pas, moi, ça m'a vachement ému quand je l'ai lu, jusqu'à la fin. Et du coup, j'ai dit, ok, allons-y. Quoi.
C'est vrai que c'est une histoire incroyable dont on a commencé à raconter les débuts avant la pause. Dans les années 50, aux États-Unis, quand on joue au tennis, le Graal, c'est le championnat Forest Hills, c'est ça, ouais. L'ancêtre de l'US Open. Et là, pour l'atteindre, Althea Gibson va devoir encore patienter. On lui autorise petit à petit les choses. Hein. D'abord, le championnat de tennis couvert. Ça se passe pas très bien, d'ailleurs, vous le montrez. Hein. Elle a droit aux insultes, négresse, rentre chez toi, etc., etc. Et ce n'est que dans un second temps qu'elle atteindra ce championnat national.
Oui, disons que l'institution va tout faire pour l'empêcher de percer. Et qu'au départ, on lui dit non. Au bout de quelques années, on lui dit qu'elle va pouvoir jouer, mais seulement sur les tournois mineurs. Et puis à un moment donné, les gens s'aperçoivent quand même que cette joueuse noire est très très forte. Et il y a une pression pour les joueuses blanches qui se disent, mais si on refuse de l'affronter, finalement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a peur d'elle ? Et donc, ils se sentent.
Est-ce que ça ne nous dessert pas de l'exclure, finalement ?
Oui, je pense qu'ils ne l'ont pas accepté de gaieté de cœur au départ. Hein. Et ils ne se sont pas dit non plus qu'elle allait gagner. Ils se sont dit, bon, bah, on va crever l'abcès, on va la laisser venir, on va peut-être la battre, et puis on n'entendra plus parler. Seulement, elle a participé, elle a gagné.
Et il y a eu notamment, pour qu'elle puisse participer, une tribune de la championne Alice Marble, qui a défendu donc, cette intégration d'Althea Gibson dans le championnat.
Oui, c'était une grande championne que Gibson aimait beaucoup d'ailleurs. Et elle a écrit dans un journal, un Spé Tennis, elle a écrit une lettre en expliquant au monde du tennis que c'était plus possible, qu'il fallait changer, que le monde était en train de changer dans d'autres sports et qu'il fallait que ce soit aussi le cas dans le tennis.
Il y a donc cette mobilisation en quelque sorte de ces paires blanches. Il y a aussi le passage par l'Europe. On démarrait en 1957 à Wimbledon. Il y a eu la victoire à Wimbledon, la victoire à Roland-Garros et ensuite la consécration aux États-Unis. C'est dans ce sens-là que ça s'est fait.
Il y a eu d'abord Roland-Garros,
ensuite Wimbledon.
Oui. Et c'est ça qui m'a aussi surpris dans le parcours. Quand j'ai découvert son parcours, c'est que nous, en tant que Français, en général, on se souvient un petit peu des champions qui ont gagné Roland-Garros. Et je ne savais pas. Je me souviens, gamin, d'avoir entendu Yannick Noah parler d'Arthur Ashe, mais jamais d'Althea Gibson.
Arthur Ashe, c'était, les années 60. C'était encore des années plus tard.
Si vous voulez, quand Yannick Noah gagne Roland-Garros et qu'on se dit qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de joueurs noirs, il y en a un petit peu, mais quand Noah gagne, c'est quand même... Pour nous, le premier Français noir qui gagne un tournoi du Grand Chelem, il va parler, lui, d'Arthur Ashe, parce qu'il l'a rencontré quand il était petit.
Mais il ne parlera pas d'Althea Gibson.
Et non, il en parle pas. Alors que Arthur Ashe, lui, a parlé d'Althea Gibson et a dit qu'elle lui avait ouvert la voie.
Donc il y a une sorte de double occultation, à la fois parce qu'elle est femme et à la fois parce qu'elle est noire, c'est ça. C'est-à-dire que sa disparition dans le paysage tennistique, c'est ces deux choses-là à la fois.
Ouais, si vous allez sur la page Wikipédia d'Arthur Ashe, il y a toujours marqué que c'est le premier joueur de tennis noir à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem.
C'est le premier homme, effectivement, mais il y avait eu une femme avant lui.
C'est pas précisé.
C'est incroyable ce que vous nous racontez. En tout cas, elle enchaîne les victoires en Grand Chelem. En simple, en double, mais on a l'impression, à vous lire, que c'est une personnalité qui ne se satisfait jamais de ce qu'elle a et qu'elle pense toujours à l'étape d'après, à ce qu'elle pourrait faire d'autre, à comment elle pourrait se renouveler. Elle est insatiable, Althea Gibson.
Ben, c'est surtout qu'elle n'a pas d'argent, quoi, aussi. Enfin, c'est pas comme le tennis ne rapporte rien à l'époque. Du coup, et comme elle ne vient pas, elle, contrairement aux autres tennismans d'un milieu argenté, elle a besoin de trouver des fonds et des financements. Donc,
on se rend pas compte aujourd'hui qu'on pouvait à l'époque gagner Roland-Garros ou Wimbledon sans gagner d'argent. Effectivement, elle a gagné, ça lui faisait qu'elle gagnait un trophée, peut-être en notoriété, mais contrairement à ses camarades, elle avait toujours pas les moyens de voyager pour faire les tournois. Donc à un moment donné, elle s'est dit je suis obligée d'arrêter, quoi, c'est pas possible.
Et c'est à ce moment-là qu'elle se met à chanter ?
C'est à ce moment-là qu'elle se pose plein de questions sur ce qu'elle va faire et qu'elle a envie de faire plein de choses. Et c'est aussi ça qui me la rend très, très attachante. C'est qu'elle va, tenter plein de choses et elle va tenter effectivement de faire de la musique, du jazz.
On va l'écouter tout de suite. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find.
happiness, and I guess all those things you've always pined for. Gee, I like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything but love.
Mais c'est qu'elle s'en sort drôlement bien, Althea Gibson, I Can't Give You Anything But Love. L'album n'a pas beaucoup de succès, malgré tout.
Non, pas tellement. Effectivement, du coup, elle va s'essayer au cinéma. À faire un film.
Elle va
avec
jouer chez John Ford, c'est
John
ça
John Ford, c'est plutôt pas
ouais,
mal quand
bah
même.
Oui, c'est plutôt c'est bien. Les Cavaliers, c'est ça.
Ouais. Et d'ailleurs, elle va s'engueuler un peu avec eux parce qu'au départ, ils veulent la faire parler d'une façon ultra caricaturale. Elle a un rôle qui est trop caricatural pour elle, qui est celui de la cuisinière, c'est ça.
La femme qui s'occupe de la femme blanche. Donc,
ouais, c'est ça. Donc,
la nounou. Une
sorte de nounou pour adulte.
Du coup, ça se passe pas très bien sur le tournage. Voilà, mais parce qu'elle avait des choses à dire, donc elle les a dites.
Mais elle arrive à faire changer des dialogues à John Ford. Quand même.
Ouais,
pas rien.
Il ne va pas y en avoir tant que ça.
Mais j'aurais adoré l'entendre parler avec John Wayne, qui n'était pas connu pour être quelqu'un de très très ouvert. J'aurais aimé être une petite souris pour les entendre.
Ni à la minorité noire, ni aux femmes d'ailleurs.
Voilà,
les
entendre discuter, ça m'aurait intéressé.
Marjorie ?
Oui, je me demandais justement, mais comment est-ce que vous avez fait pour la dessiner ? Est-ce que vous aviez autant de matière que pour les autres ?
Ah oui.
Il y a plein de photos.
Ouais, il y a beaucoup de photos. Il y a des vidéos même, enfin des vidéos, des films d'époque où elle joue au tennis. Donc on a pas mal d'images. Bon, après, c'est des images un peu pourries hein, d'époque, niveau qualité, bien sûr. Mais après, moi, de toute façon, quand je fais des biopics, j'essaye de pas faire ressembler trop le personnage. Bon,
pourquoi?
Là, pour le coup, j'ai pas vraiment le problème parce qu'on le reconnaît pas. Mais quand on connaît, la personne la connaît, donc c'était pas gênant.
Non, elle va être
mais connue maintenant.
En général, j'essaye de faire plutôt un personnage qui ressemble à la personne physiquement, la manière dont elle est, dont elle pense. Donc ça va être
plus dans les attitudes,
voilà,
en fait,
c'est
que
vraiment
dans
un truc d'attitude et pas tellement de physique, parce que parfois on a des physiques qui correspondent pas à notre être. Et en vidéo ça passe parce que la personne elle est belle et tout. En dessin, il y a des choses du visage que si on rajoute je sais pas, un long menton par exemple, tout droit, tout plat, ça peut rendre quelqu'un d'un peu passif. Si on fait un nez un peu pointu, ça rend quelqu'un d'assez agressif. Enfin, il y a des choses comme ça, des codes dans les dessins qui ne colle pas au personnage. Donc souvent, quand je fais des biopics, j'essaye de trouver un personnage qui correspond à ce que j'ai envie de lui faire dire.
Voilà. « I always wanted to be somebody », c'est le titre de l'autobiographie qu'elle publie à la fin des années 50. Julien Frey, j'ai toujours voulu être quelqu'un. Et c'est vrai qu'on la sent terriblement dans votre roman graphique, cette énergie à arriver quelque part.
Oui, et c'est... J'avais envie, en fait, dans ce scénario, plus que de parler de tennis, de parler de cette gamine qui veut réussir et de montrer...
qu'elle y arrive.
Bah, si y a des gamins ou des gamines qui peuvent lire ce bouquin et se dire que bah, moi aussi, je peux y arriver à travailler dans tel métier qui ne m'est pas encore ultra ouvert pour le moment, bah, tant mieux. En fait.
Ouais. Parce qu'après le tennis, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Sylvain Dorange, elle s'attaque aussi au golf. Là encore, comme si elle cherchait les ennuis. Quoi.
Ouais,
un milieu plutôt réservé aux riches, plutôt réservé aux blancs. C'est ça qui l'attire en fait, c'est de faire tomber les barrières.
On dirait. Ou alors cette passion comme ça.
Ouais, je pense qu'elle est. C'était un peu de la provocation aussi. Et puis, mais elle le fait sérieusement parce que le golf, elle a un classement.
27e joueuse mondiale.
Ouais, c'est pas dire
qu'elle arrive à se classer dans le circuit professionnel en partant de rien.
Ouais, mais c'était une bosseuse, donc elle faisait les choses sérieusement.
Non, et puis elle est très physique, elle est sportive, elle est forte physiquement. Donc là, je pense qu'elle aurait pu faire de la boxe aussi, mais peut-être ça c'était un peu dangereux.
On lui dit d'ailleurs quand elle est petite. Ouais. On dit à ses parents, ta fille c'est une boxeuse,
ouais.
Parce qu'elle, parce qu'elle a ce tempérament-là.
Mais du coup, le golf, je pense qu'il faut aussi avoir un côté physique pour frapper, je pense qu'elle le voit, en tout cas elle le voit comme ça, quoi. C'est un truc.
Ouais, ouais, je sais pas, moi le golf, j'ai jamais vu ça comme un sport
ah ouais particulièrement physique.
Je vois ça.
C'est physique, si, le sport.
Faut pouvoir marcher. Oui, oui.
Moi je connais quelqu'un qui est tombé dans le lac en faisant du golf. Faut dire qu'il a eu du mal à en sortir.
Faut marcher longtemps. Je sais pas.
Faut beaucoup marcher, faut être endurant. Ouais.
D'accord.
En tout cas, elle aime les défis.
J'ai des préjugés sur le golf.
Elle aime les défis, elle les relève et elle force l'admiration de ceux qui l'entourent. Parallèlement, du côté personnel, on l'a évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est pas facile. Hein. Elle traverse des moments compliqués. D'abord avec ses proches pour leur imposer ses passions, mais ensuite elle finit quand même sa vie seule, sans le sou. Le dites, hein, mariée deux fois, deux échecs, aucun enfant. Elle en a souffert.
C'est pas quelqu'un qui s'est vraiment pleinement réalisé dans sa vie personnelle. Je pense qu'elle a tout donné au tennis et puis peut-être après au cinéma et à la musique, à sa carrière. C'est quelqu'un qui était compliqué, qui avait des défauts, qui claquait des portes beaucoup et qui savait pas forcément se préserver. Ça fait un super personnage, ouais. Mais dans la vie, c'est compliqué.
Ouais. Et on voit d'ailleurs dans certaines des dernières planches, Sylvain d'Orange, plutôt sombre, hein. On est dans les années 90, c'est un peu le crépuscule pour elle et elle n'a rien, en fait.
Ouais, elle est seule.
Il y a cette tonalité-là.
Si elle a encore son amie... Elle a une amie qui l'a suit depuis le début, avec qui elle jouait les doubles. Mais non, elle est seule. Elle est seule depuis un peu toujours, en fait. Et elle est, on dirait qu'elle a été choisie par des gens pour qu'elle puisse avancer. Mais elle a toujours été un petit peu loin de ces personnes.
L'ami dont vous parlez, c'est Angela Buxton, c'est ça. Qui la sauve, en fait. Qui fait un appel de fond aussi sur la fin de sa vie pour qu'elle sorte de la misère, tout simplement.
Effectivement, elle est à nouveau aidée, sauvée. Par quelqu'un. Et cette amie joueuse de tennis avec laquelle elle a joué pendant des années, la voyant vraiment en difficulté financière, puisqu'elle ne peut plus payer son loyer, ni ses médicaments, décide d'écrire encore une lettre à la communauté tennis. Et ils vont faire un appel aux dons et ils vont récolter $1 million.
Ouais.
Mais elle voulait aussi la faire travailler dans son usine à vêtements et Althea Gibson n'a pas voulu. Enfin, elle suivait quand même pas tout, quoi. Elle prenait ses propres décisions malgré les aides.
Sans concession, ouais.
Oui, c'est ça. Elle aurait pu survivre facilement à ses côtés. Hein.
Oui, elle aurait pu, comme beaucoup de joueurs qui l'ont fait après elle. Je sais pas, travailler dans l'organisation ou voilà, mais elle faisait pas partie du sérail. Je pense que
jusqu'au bout, même si elle a eu ses succès.
Je pense qu'elle a toujours été la fille de Harlem, en fait.
Ouais, ouais. Et elle s'est pas débarrassée de ça. Et quand elle meurt en 2003, elle n'est toujours pas reconnue pour son talent et pour sa valeur sportive.
Non. Elle est oubliée jusqu'à ce que les sœurs Williams reparlent d'elle. Michael Brown, chip out the man, let go. Touchdown from dawn, yeah. See me at no discount, yeah. Everybody want come on, cause I'm see me with the dividend. They dollar them. She no like clown. Table look like NFL draft. No throne, no thunder, some bone. She wind and go down. Got the sandy, got up and grown, yo. We live the life of luxury. Yeah, yeah, yeah. She back it up like a chop for me. Yeah, yeah. Cooler at the pool bar at my home. Showing money like Patrick Mahomes. So you know I touchdown from dawn. Que esa es una sicaria. Y solo baila con la amiga. Sabes que está dura, no hace falta que le diga. Tú estás jugando en otra liga. Y todo el que la ve le grita. Tiene la cuenta al día. Sabes que está dura, no hace falta que le diga. Tú estás jugando en otra liga. Touchdown from
playlist RFI du mois, c'était Michael Brown avec ce titre Touchdown. Althea Gibson, reconnue tardivement donc, mais qui restera un exemple pour les générations d'après. Vous le disiez à l'instant, hein, c'est Serena Williams en 2016, après sa victoire à Roland-Garros, qui salue une pionnière pour tout le tennis et pas seulement le tennis féminin. C'est vraiment elle qui sort de l'oubli, la figure d'Althea Gibson.
Ouais, elle a parlé d'elle plusieurs fois. Venus Williams aussi a parlé d'elle. Et du coup, ça a permis aux gens de se souvenir un petit peu d'Althea. En France, il y a juste un gymnase qui s'appelle Althea Gibson. Bon, c'est déjà pas mal.
Mais où ça à quel endroit
C'est dans Paris, mais je ne sais plus.
Je ne sais pas si c'est pas dans le 19e. C'est dans Paris, je crois que c'est le 19e.
Donc la mémoire commence à se mettre en place tout doucement. Est-ce qu'il est vraiment plus facile aujourd'hui pour une gamine de Harlem de se hisser sur les podiums du tennis, vous qui vous intéressez à cette discipline?
Alors,
Julien Frey, Sylvain Dorange.
Honnêtement, je pense qu'il faudrait demander à une gamine de Harlem pour avoir une bonne réponse. Mais je pense forcément que c'est plus facile que pendant la ségrégation. Mais je ne suis pas sûr que le tennis soit encore le sport...
Le plus ouvert,
il y a qu'à regarder. Moi, quand je vais après, je vais au jardin du Luxembourg, mais quand je regarde à gauche qu'il y a les joueurs de basket et quand je regarde à droite qu'il y a les joueurs de tennis, et ils n'ont pas la même couleur. Donc il y a sans doute toujours un barrage, mais moins.
En tout cas, après une pionnière du sport et du tennis, voici une de nos pionnières de la culture. Vous connaissez ce rendez-vous désormais, deux fois par mois sur le Pont des Arts avec Marjorie Bertin. If the earth is a woman, if the sea is a woman, if the moon is a woman, I know God is a woman. Et Marjorie, on part cette semaine sur les traces de Gabriela Mistral, premier prix Nobel de littérature d'Amérique du Sud en 1945.
Oui, tout sexe confondu d'ailleurs. C'est l'histoire incroyable d'une poétesse féministe, lesbienne, diplomate chilienne très engagée, détournée après sa mort par le régime de Pinochet, qui fit d'elle le contraire de ce qu'elle fut et de ce qu'elle écrivait. Aussi.
Son premier métier, Marjorie, c'était institutrice.
Mais oui, mais alors là, c'est incroyable. Dès 14 ans, sans aucun diplôme, sans aucune formation... à la campagne. Il faut dire aussi qu'elle est née en 1889 dans une famille extrêmement pauvre, d'origine chilienne, indienne, basque. Alors elle écrit très jeune des textes qui prônent l'éducation des femmes. Dès 1922, elle publie son premier recueil, Desolación, qui va remporter un succès immense dans toute l'Amérique latine, car Gabriela Mistral, c'est d'abord une pionnière de la poésie, m'a raconté Irène Guéraud. Elle est maîtresse de conférences en littérature générale comparée à la Sorbonne, et elle est merveilleusement traductrice de sa poésie aux éditions Une.
Elle a forgé une langue très novatrice. Quand un mot dont elle aurait besoin n'existe pas, elle l'invente. Elle utilise aussi des termes ruraux ou issus des langues des peuples natifs dans un but politique. C'est un usage politique de la langue. Elle est aussi pionnière de par ses opinions politiques. Elle est féministe, engagée pour la cause des femmes. Elle s'engage très tôt aussi en faveur des républicains pendant la guerre civile espagnole. Elle s'alarme aussi très vite de la montée du fascisme et du nazisme en Europe. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver
la luna brillando. Et un peu comme votre tenniswoman préférée, Sylvain Dorange et Julien Frey, la Mistral est sur tous les fronts et elle va s'engager, elle aussi, pour les droits des plus humbles et notamment l'égalité salariale.
Ces poèmes, Marjorie, de quoi parlent-ils?
Alors, il y a par exemple Pressoir et Sar que j'ai sous la main. Deux recueils ont été traduits en 2021-2023, donc par Irène Guéraud, sont empreints d'une sensualité immense liée à la terre, de métaphysique, de Mésopotamie, de Normandie. C'est absolument sublime. Dans Poème du Chili, qui paraîtra ce printemps, Gabriela Mistral imagine son fantôme revenu sur Terre pour parcourir à pied les 4000 km de son pays en compagnie d'un cerf et d'un enfant.
Et les enfants sont importants dans son œuvre, Marjorie ?
Oui, mais plus encore dans ses actions.
On peut dire aussi qu'elle est pionnière sur le plan de la pédagogie, puisqu'elle s'engage toute sa vie, notamment pour l'éducation des filles, pour l'éducation des enfants des zones rurales et des enfants des peuples natifs. Elle devient aussi quand même assez connue de par les avancées pédagogiques qu'elle propose. Et c'est là que le gouvernement révolutionnaire mexicain va lui demander de venir réformer le système pédagogique du pays de 1922 à 1924.
Alors Mistral invente des fermes écoles, fait installer des bibliothèques dans les écoles, écrit sur la maternité, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, devient consul du Chili, donne des conférences dans le monde entier, enfin, elle est vraiment épatante. Elle obtient le Nobel en 1945, elle aime les femmes, elle ne s'en cache pas, elle fait partie des premiers cercles saphiques officiels, mais elle meurt en 1957 et à partir de là, c'est l'effacement pour de multiples raisons, Irène Guéraud.
D'abord, il y a eu la dictature de Pinochet qui en a fait une figure de mère de la nation assez édulcorée, d'une poétesse qui aurait surtout écrit pour les enfants, ce qui est absolument faux. Il est très paradoxal que la dictature l'ait choisie comme image de mère de la nation, sachant qu'en réalité, elle correspond absolument pas à ce profil-là, puisqu'elle est plutôt lesbienne, queer, qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle a eu un enfant adoptif, mais elle s'est jamais mariée. Elle n'a pas du tout suivi le schéma traditionnel.
Et puis, il y a un autre chilien aussi, Marjorie, Pablo Neruda, qui obtiendra également le Nobel de littérature.
Et oui, ce qui va aussi contribuer à l'éclipser, mais heureusement, ces textes n'ont pas été détruits. Et on trouve des inédits. Il y a 20 ans, la nièce de sa dernière compagne a légué plus de 20 000 notes et carnets à la Bibliothèque nationale du Chili. Une compilation, « Béni soit ma langue », vient d'être traduite par Anne Picard et publiée en France aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Un texte fondamental pour Emma Tolozan, l'une de ses éditrices.
Gabriela Mistral est très connue en Amérique latine. Il y a même un cratère sur Mercure qui a été baptisé en son honneur. Et si ses recueils et ses poèmes ont été traduits en France, sa personnalité reste quand même assez méconnue. On découvre une personne assez douce, fragile, pleine d'interrogations, à la fois sur son monde intérieur, les relations qu'elle a pu avoir, ses émotions, mais aussi sur le monde qui l'entoure, parce qu'elle a beaucoup voyagé. Elle était très attentive à ce qui se passait à l'international et du coup elle avait un regard vraiment très singulier sur l'actualité mondiale.
Gabriela Mistral, donc morte en 1957. Après cette période d'effacement, Marjorie, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui en Amérique latine?
Elle est considérée comme l'une des plus grandes autrices et plus grandes penseuses. On l'étudie à l'université, des thèses lui sont même consacrées et elle a un impact post-mortem qui est très surprenant.
Elle est revendiquée aujourd'hui notamment par les féministes, bien sûr, de toute l'Amérique latine et même au-delà, par la communauté LGBT+, qui se reconnaît dans son lesbianisme et sa queerness. Et elle a été notamment centrale dans le soulèvement social qui a eu lieu au Chili à partir de 2019. On peut voir aujourd'hui dans Santiago, la capitale du Chili, son image peinte dans les rues et on la voit porter sur ces images le foulard vert du droit à l'avortement.
On voit aussi, me racontait Irène Guéraud, des tags qui sont des citations de son œuvre et on la chante, sa compatriote Violeta Parra lui dédie une chanson dans les années 60. Plus près de nous, les Dames de la Joliette ont adapté son poème « Ronda des Colores ».
Fascinant hein, ce destin de Gabriela Mistral qui revient en force, on
et
peut
c'est
dire.
Beau, ouais. C'est beau.
Après avoir été totalement effacée, on peut donc maintenant également la lire en français. Sylvain Dorange, ça ferait un nouveau biopic qui vous inspirerait, vous qui aimez défendre les femmes invisibilisées.
Exactement, ouais, ça pourrait rentrer dans la collection de livres. Ouais, après, le problème de la BD, c'est qu'il faut un bon scénariste pour raconter bien l'histoire.
Parce que bah moi, je vous propose Marjorie. Oui, hein.
Voilà.
Avec plaisir.
Nathalie m'a devancé, mais oui, pourquoi pas.
Merci Marjorie, à demain pour avec nous parler d'une exposition à Marrakech consacrée au plasticien Mahi Binbin. Ouais. Voilà, et en attendant, Maï Bin Bin, c'est une autre expo dont on parle à présent. On l'appréciera si on est un peu nostalgique de la boule à facettes, de la musique disco. Elle est en ce moment à la Philharmonie. Laura, vous y êtes allée, hein, ça ressemble à une boîte de nuit dans
oui,
un musée,
ça, hein,
c'est à peu près ça.
Oui.
Vous avez plongé donc dans les racines de la musique disco grâce à cette expo Disco I'm Coming Out qui se tient en ce moment. Elle se veut avant tout immersive.
Oui, comme une furieuse envie de danser toute la nuit alors qu'il était 11h du matin un mardi. Une fois passé l'entrée, la musique est forte et la lumière basse pour laisser briller les très nombreuses boules à facettes qui habillent l'exposition. À commencer par la toute première, au-dessus de nos têtes, elle est un peu particulière. J'étais avec Jean-Yves Leloup, l'un des commissaires de l'exposition.
Donc là, nous sommes à l'entrée et il y a une espèce de molécule en boule disco qui tourne, qui accueille le visiteur. C'est quoi cette molécule ?
Une boule à facettes en forme de molécule d'éther qui a été imaginée par l'artiste française Jeanne Susplugas. Ça ressemble un peu à une sorte de constellation, peut-être d'étoiles aussi, mais l'idée de l'éther, qui a été aussi une substance psychotrope et qui est une substance aussi qui peut vous enivrer, c'était d'accueillir le public avec la thématique de l'ivresse des sens, comme si on perdait un petit peu ses sens. Et bien sûr, les différentes facettes de la sculpture renvoient des milliers de petites lumières qui accueillent le public. On veut aussi offrir une forme de plaisir esthétique et de déambulation dans cette exposition consacrée au disco.
Et la boule à facettes, je m'attarde encore un peu dessus, parce que comment est-ce qu'on l'appelle maintenant, la boule à facettes ?
La boule disco.
La boule disco,
bah, bien
et
sûr.
Oui.
Ouais.
Un objet central de toutes nos fêtes et nuits, en boîte de nuit, un objet mythique, populaire par la musique disco. On le trouve sous toutes ses formes au fil de l'exposition, mouvante ou dégoulinante, je vous en dis pas plus, mais c'est très réussi. J'avais vraiment envie de toutes les prendre, c'était super chouette. Voilà pour la porte d'entrée dans le disco, une musique qui se veut hédoniste, presque cathartique et qui stimule tous nos sens. C'est l'aspect le plus évident et le plus superficiel aussi, mais au-delà des reflets de la boule à facettes, parce que la disco ce n'est évidemment pas que ça, vous vous en doutez, l'expo tente d'en déconstruire tous les clichés.
À commencer, Laura, évidemment, par les origines de la musique disco.
Mais oui, car comme tant de mouvements culturels et artistiques, à l'origine, la disco, eh bien, c'est une musique noire américaine.
On s'est aperçu en travaillant sur cette expo que beaucoup de gens pensaient que c'était quasiment une invention française ou italienne, alors qu'au fond, ce sont des racines noires américaines. C'est une musique qui est au fond un héritage de la soul music. C'est presque une version plus dynamique, plus enjouée, plus optimiste de la soul music, avec des voix qui sont très proches du gospel et bien sûr de la soul, et avec des motifs de musique qui sont proches du funk aussi et qui vont aussi se marier à des percussions latino. La culture latino est très présente notamment à New York et sur la côte est américaine. On peut avoir aussi des influences africaines. Certains des premiers morceaux joués par les DJ qui vont donner naissance à cette scène disco venaient d'Afrique, comme le Soul Makossa de Manu Dibango par exemple. Mosoma, Mosoma. Donc c'est une musique assez syncrétique au fond, et avant même qu'elle se nomme disco, elle rassemble toute une variété de titres de soul, de funk, de musique africaine qui sont joués par de jeunes DJ sur les pistes de danse de petits clubs plutôt gays, plutôt noirs et latinos, qui rassemblent des classes sociales plutôt populaires à ses débuts. Mais c'est un mouvement qui est devenu très rapidement très populaire, et comme souvent dans l'histoire de la musique noire américaine, elle influence profondément, comme elle l'a fait avec le jazz, comme elle l'a fait avec le rock, comme elle le fera plus tard avec le rap. Elle influence profondément une grande partie de la culture populaire, et donc une grande partie des chanteurs et des chanteuses de variété française se sont emparés, inspirés, comme ils l'avaient fait d'ailleurs avant dans les années yéyé, se sont inspirés de cette musique pour en donner leur propre version, parfois même avec plus de succès que des artistes noirs américains des origines.
Alors, en d'autres mots, hein, comme bien souvent, l'appropriation culturelle et l'invisibilisation de certaines cultures ne sont jamais très loin. Et les origines de la disco, c'est donc l'objet de la première partie de cette exposition, Let's Groove, où on rencontre nombre de pionniers et pionnières du genre. Diana Ross, Donna Summer pour les divas, mais aussi les clubs pionniers où cette musique faisait trembler les dance floors.
Yeah. Mais oui, la diva Donna Summer, I Feel Love. Musicalement, Laura, la disco est à la croisée des chemins.
Oui, à une époque où le synthétiseur va peu à peu s'imposer pour venir chambouler les codes de la musique orchestrale. Au cœur, on l'a entendu, d'influences de soul, de funk. Et j'ai approché le micro d'une installation qui propose de décomposer chaque instrument d'un morceau. J'ai trifouillé quelques boutons. Petit blind test.
Ah bon ?
Africa.
Ça commence à ressembler à quelque chose qu'on connaît, mais... Est-ce que nos invités ont une idée, Julien Frey?
En disco, là, je vais être très, très mauvais.
Ah là 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 là.
Mais c'est chic.
Ah bah voilà, le freak,
absolument. Le freak, c'est chic.
Bah oui, on l'a reconnu, hein, le freak du groupe Chic, même quand on n'est pas calé en disco, en
général,
ça résonne à nos oreilles.
Et c'est un des nombreux morceaux qui rythme l'exposition, dont le parcours n'est pas fléché. On est assez libre de déambuler comme on veut au gré des quatre grandes parties consacrées aux origines de la disco, lutte de l'époque et notamment LGBT, mais aussi aux lieux, les discothèques avec des œuvres autour de la danse, du corps et de la fête. On y trouve par exemple le tout premier drapeau arc-en-ciel, de nombreuses photographies, des documentaires, des cartes d'accès aux nightclubs, c'était très VIP, des affiches aussi. Et puis enfin une partie sur la persistance de la disco dans la culture populaire actuelle. On y trouve par exemple les costumes flamboyants portés par les chanteuses Juliette Armanet ou Clara Luciani lors de leur tournée, juste à côté d'une robe portée par Dalida. Là, c'est la petite émotion.
Oui. J'adore.
Oui, c'est très beau. Tout ça pour dire que la disco ne cesse de ressurgir dans les courants musicaux, que ce soit à travers la house ou la techno, comme un vecteur de catharsis et d'émancipation sur le dance floor. Un espace, il faut le redire, éminemment politique. La fête est politique et les œuvres et les documents présentés à la Philharmonie le prouvent.
Et l'expo Disco, c'est jusqu'au 17 août prochain. All that pressure got you down. Merci Laura Dulieu, vous revenez quand vous voulez nous faire danser sur le pont des arts. Et merci également à nos invités Sylvain Dorange, Julien Frey. White Only est paru aux éditions Vent d'Ouest. On ne peut que le recommander pour tous ceux, et ils sont très nombreux, qui ne connaissent pas cette histoire de la tennis woman Althea Gibson. Demain, sur le pont des arts, l'écrivain Eugène Ebaudet, qui vient de sortir un nouveau roman, Zamzam, dans la collection Continent Noir de Gallimard. Zamzam, entre la farce, la poésie, le roman picaresque, une lecture qui intrigue et qui fait beaucoup de bien. À la programmation, Damien Roucou, assisté aujourd'hui de Jugurtha Hammer. Pierre Plantier était à la réalisation. Merci à eux également. À suivre sur RFI, le journal en français facile. Et dans 10 minutes, Radio Foot. À demain, 15h10 TU. Boy.